dans notre bien et service.
Monsieur Valetti, s'il permet de vous interrompre, vous dites que ça crée des emplois. Quel type d'emplois génère ce secteur, justement?
Oui, il y a deux choses très importantes à noter. D'abord, à niveau mondial, on estime que 50% des emplois générés par le tourisme sont occupés par des jeunes, c'est-à-dire des gens de moins de 25 ans. Cela est très important dans le contexte africain, vu que le taux de chômage des jeunes est très élevé. Le deuxième aspect qui me semble important souligner, c'est que on estime à niveau mondial que 70% des emplois générés dans le tourisme sont pour des femmes. En Afrique, c'est les 47%. Donc, les touristes peuvent représenter vraiment un moteur de croissance inclusive et de participation des femmes au marché du travail.
Alors, il y a une autre question aussi qui est très importante. Est-ce que le tourisme permet d'approfondir l'intégration régionale comme la zone de libre-échange et d'en tirer parti?
Oui, une des bases, des résultats très importants qu'on a vu dans les rapports, c'est que 4 touristes sur 10 en Afrique provient du continent même. Donc, la dimension du tourisme intra-africain est très importante. Et les avantages de cela sont que le tourisme intra-africain génère des liens intersectoriels beaucoup plus forts à cause de la proximité, disons, culturelle et de la plus forte demande des biens et services locaux. Donc, ces éléments-là seraient renforcés, bien sûr, en rationalisant les formalités des visas, comme on vient d'écouter, mais aussi en libéralisant les espaces aériens, favorisant la convertibilité des monnaies, et surtout en créant une valorisation des cultures et de l'image du tourisme intra-africain, et en améliorant les infrastructures du continent pour diminuer les coûts de voyage intra-africain.
Giovanni Valencici, restez avec nous. Je veux aussi donner la parole à Abdelslam Benzitouni. Vos missions au sein de Jumia Travel vous amènent régulièrement sur le continent. Vous avez des bureaux dans plusieurs grandes capitales économiques comme à Nairobi, Lagos, Kampala ou encore Dakar ou Abidjan. Et vous travaillez avec plus de 30 000 hôtels pour permettre une meilleure offre touristique. Vous faites d'ailleurs même des sondages pour avoir de meilleures offres. Alors, vous avez, avec vos sondages, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Afrique semble moins intéresser les touristes?
En fait, ce qui est intéressant, c'est... alors, il y a deux choses. Déjà, je pense que ce qui est intéressant avec le rapport de l'OMT, c'est que ça montre qu'aujourd'hui, l'Afrique est un terrain vierge et plein de potentiel. Il y a 10% de plus par rapport à 2015 d'arrivée de tourisme. Mais il y a une chose intéressante que notre collègue vient de dire à l'instant, c'est le tourisme africain, en fait. Aujourd'hui, la clientèle africaine, des Africains qui voyagent à l'intérieur du continent, c'est presque 40% de tous les voyages. Et cette classe moyenne qui a besoin de loisirs, donc voyage de plus en plus au niveau, que ce soit pour les loisirs ou pour les affaires. Donc il y a tout un potentiel intéressant parce que la classe moyenne est en train de se développer. Donc il y a une nouvelle, enfin il y a un nouveau marché intéressant où il n'y a pas que le tourisme international, il y a le tourisme d'affaires et de loisirs africains. Sans parler de la diversification asiatique, 10% des voyageurs chinois qui vont à l'étranger, vont en Afrique, donc il y a toute cette diversification. Par rapport au sondage, ce qui était intéressant, c'est que nous, on a fait un sondage par rapport à 35 000 personnes sur une quinzaine de pays. On leur a demandé tout simplement pourquoi vous ne voyagez pas ou quelles sont les principales contraintes. Et c'était intéressant, on a eu environ 35% des gens qui nous ont dit les coûts du voyage, enfin c'est le principal obstacle, les coûts du voyage, le coût de l'avion, le coût du visa, de l'hébergement. Ensuite, c'était notamment le manque d'informations, les gens ils n'avaient pas d'informations, autant il y a du marketing sur Dubaï, sur l'Europe, sur les États-Unis, mais sur les pays africains eux-mêmes, des fois au sein même de leur pays, il n'y a pas de marketing, on ne connaît pas, on a peu d'informations. Aujourd'hui, Internet, on le voit voir avec la visite à l'Afrique, est en train de combler ce manque d'informations.
Tout à fait, on va l'avoir tout à l'heure d'ailleurs.
Il y avait la troisième contrainte, c'était les visas. Ça, c'est un gros problème pour pas mal de gens qu'on a sondés chez Jumia Travel, c'était tout simplement les visas au sein même des États africains. Par exemple, un Kenyan qui veut aller au Nigeria ou un Nigérian qui veut aller au Togo ou qui veut aller en Côte d'Ivoire doit faire des visas et ainsi de suite.
Alors, je me permets encore de vous interrompre. Vous parlez donc de destinations qui doivent être encore plus exploitées. Selon vous, c'est un secteur d'avenir alors, le tourisme?
c'est un secteur d'avenir pour certains pays qui ont une volonté politique et qui ont des initiatives privées qui suivent. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, le Cap Vert, on le voit, il y a des initiatives privées accompagnées par une volonté d'État très forte. Il nourrit aussi, mais également d'autres pays comme le Kenya ou la Tanzanie qui ont une vision globale avec différents partenaires, parce que les initiatives privées, c'est bien, mais s'il y a l'État derrière qui accompagne la réduction, par exemple, des taxes aéroportuaires ou qui accompagne, par exemple, les hôteliers à avoir une visibilité dans les salons internationaux, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est plus horrible. Il faut que les initiatives soient un peu plus larges. Il y a les initiatives privées, donc par exemple les hôtels, l'État, mais aussi la formation sur place, parce que la formation est importante. On peut avoir un mauvais service. Et ensuite, le quatrième point, c'est le marketing. Il faut qu'il y ait un marketing.
Alors le marketing, on va y revenir dans quelques instants. Ouais. Avant cela, on va pouvoir donner la parole aussi à Oumar Fedior, car l'Afrique, c'est avant tout un continent avec 54 pays et encore plus de spécificités. Vous êtes avec nous en ligne depuis le pays de la Teranga, connu pour son hospitalité et pour son fort potentiel touristique. Est-ce que vous pensez que la décision de retirer les formalités de visa aux touristes étrangers va en quelque sorte relancer l'économie du tourisme au Sénégal?
Je vous en prie, très bien. Répétez la question, s'il vous plaît.
Alors, est-ce que le fait de retirer les visas pour les touristes étrangers va permettre de relancer l'économie du tourisme au Sénégal?
Ça va être une partie, ça va être une très bonne partie, parce qu'il y a eu cette mesure qui avait quand même découragé beaucoup de vols chartés. Les tours opérateurs, c'est eux qui déployaient par semaine au moins 2600 touristes. Alors, si on en avait 15, donc c'était un chiffre assez intéressant. Depuis qu'il y a eu cette tracasserie, ils ont tout le dos au Sénégal. Sur 15 vols chartés, il n'en restait que 2. Donc, supprimer le visa, c'est d'abord un grand pas en avant, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut retourner vers ces tours opérateurs, être très agressif dans la promotion, leur dire que maintenant, c'est facile de revenir au Sénégal, revenez, notre pays est tranquille, revenez, il n'y aura pas de tracasserie sur le visa, revenez, le Sénégal est beau, le Sénégal est un pays touristique que vous pourriez aimer.
Alors, je vous entends un peu de façon entrecoupée. Est-ce que c'est suffisant pour vous, cette mesure? L'agence sénégalaise, par exemple, de promotion touristique, tente de mettre en lumière des régions abandonnées, comme la Casamance, qui était sur la liste rouge, et maintenant elle ne l'est plus. Êtes-vous optimiste pour le développement du tourisme au Sénégal?
Tout à fait, nous sommes tout à fait optimistes. En fait, la seule région de la Casamance constitue un très 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 gros potentiel pour le tourisme au Sénégal. Il y a la verdure, il y a la belle nature, il y a des parcs zoologiques, il y a tout une richesse culturelle en Casamance. Mais il y a eu un problème sécuritaire, c'était la rébellion. Aujourd'hui, depuis que vous avez ça s'est calmé, la Casamance a été retirée de la liste rouge. Maintenant, il y a un gros travail qui va être fait par l'agence sénégalaise de promotion touristique. Aller vers les pays émetteurs, ils disent voilà, c'est ça le potentiel de la Casamance, c'est ça la beauté de la Casamance, revenez nous voir. Maintenant, il n'y a plus cette tension-là, il n'y a plus cette guerre interne. Le Sénégal est beau, il n'y a plus de problème de visa. L'érosion côtière à Cali est en train d'être résolue. Donc, il y a un énorme travail à abattre sur la promotion touristique.
Alors, vous dites qu'il y a donc énormément de travail à abattre. L'Office du tourisme au Sénégal essaie de s'associer à des différents événements phares pour justement relancer le tourisme et son image. Donc, je rappelle quand même qu'au Sénégal, il y a 1 million de visiteurs par an. C'est 700 000 personnes de plus en Côte d'Ivoire. C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs sur la toile, sur Facebook. Vous avez été d'ailleurs nombreux à réagir. Donc, avant que vous puissiez reprendre la parole, je propose donc qu'on puisse lire quelques passages de ces réactions sur Facebook juste après une pause. Alors, comme on n'est pas encore en pause, je vous laisse donc vous continuer de finir votre explication concernant votre optimisme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pardon. Vous m'entendez toujours, Oumar, vous m'entendez toujours? Ah, je suis en break. Oumar, je ne vous entends pas. Oumar, êtes-vous là? Nous avons un léger problème technique, donc si vous le permettez, nous allons pouvoir lire les réactions Facebook juste après une courte pause.
Allez-y. D'accord, ça marche.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et dont on se rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine,
vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
vous et nous, ensemble.
De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine au tourisme sur le continent africain, comment dynamiser le secteur en Afrique, nous avons eu énormément de réactions sur notre page Facebook. Avant de pouvoir vous lire les réactions, je vais ouvrir le micro à notre dernière interlocutrice qui s'appelle Diane Audrey Ngako. Elle est actuellement à Douala. Depuis juin 2014, elle a créé la plateforme Visiter l'Afrique pour donner une autre image au continent. Elle a créé cette plateforme, elle n'avait uniquement que 23 ans, avec cette pensée qui est par nous et pour nous, l'envie de donner une autre image. Bonsoir Anne Audrey Ngako, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez et vous me recevez? Alors, avant qu'on puisse prendre Anne Audrey Ngako, nous allons avoir un reportage, car il y a de nombreux pays qui cherchent à se démarquer, notamment le Rwanda, pays enclavé, qui ne souhaite plus être seulement un point de transit. Ainsi, les autorités de Kigali ont décidé de rendre plus attrayant ce pays, connu mondialement pour ses gorilles, avec une clientèle touristique assez aisée. Pascal Gabriel Serra nous en dit plus.
Le Rwanda a décidé de faire peau neuve en ce qui concerne le secteur touristique. Bien que réputé pour la présence de ces gorilles, une nouvelle stratégie a été mise en place par les autorités afin de rendre le séjour des touristes aisés encore plus attrayant. L'une des actions incluses dans cette stratégie passe par l'augmentation des tarifs touristiques.
Notre stratégie est de développer un marché du tourisme haut de gamme, car notre tourisme repose essentiellement sur les ressources naturelles et nous sommes très stricts sur ce sujet.
Cette nouvelle ne fait pas encore l'unanimité et des clients s'inquiètent déjà d'être marginalisés ou privés de certaines attractions.
Ce n'est qu'une élite qui peut se payer cela. Si vous pensez à l'ensemble des frais et aussi ceux des hôtels, des avions et ainsi de suite, au final, il vous faudra beaucoup d'argent pour venir voir les gorilles au Rwanda.
Les hôtels de milieu de gamme près du parc national des volcans disent qu'il est trop tôt pour en connaître les retombées, et bien que plusieurs commerçants aient exprimé des inquiétudes liées à la perte de leur clientèle principale, d'autres sont plutôt positifs.
Nous recevons déjà une clientèle riche qui est capable de payer le prix. Maintenant, nos revenus s'améliorent.
Suite à ces actions, le Rwanda a bien l'intention de devenir un pays touristique à part entière en proposant aux touristes des activités culturelles variées qui, par la même occasion, contribueront à la mise en place de moyens permettant la préservation de sa faune et de sa flore.
De retour sur le plateau de Washington Forum, nous avons toujours avec nous Abdel Slam Benzitouni de Jumia Voyage et également Anne Audrey Ngako du site Visiter l'Afrique. Anne Audrey Ngako, bonsoir. On a pu voir un reportage où au Rwanda, il y a des personnes capables de donner jusqu'à 1 500 $ pour un tourisme de luxe. C'est bien loin de ce que vous avez fait, vous, quand vous aviez 23 ans et que vous avez créé ce site Visiter l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le site Visiter l'Afrique?
Alors c'était assez simple en 2014 quand j'ai créé Visiter l'Afrique. Moi j'avais déjà pris l'habitude de voyager sur le continent et j'étais assez surprise parce qu'il y avait un manque d'informations comme mon confrère de Junia a pu le dire tout à l'heure. Et chaque fois qu'on tapait Afrique généralement, on se rendait très vite compte que les médias majoritairement occidentaux mettaient une image de l'Afrique où il y avait voilà, de la famine, du
terrorisme.
Okay. Ou encore tout ce qui est un peu maladie avec Ebola. Et je pensais qu'en tant que jeune africain, il était temps un peu de changer le narratif africain pour présenter l'Afrique autrement. Comme je dis souvent, il y a 1 300 millions d'habitants qui ont plein de choses à raconter sur ce continent et on ne peut pas juste choisir de penser que l'Afrique est un pays, mais c'est d'abord un continent de 54 millions.
Alors, vous avez eu envie de créer une autre image du tourisme. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir du tourisme en Afrique?
Alors, je vais être assez sincère. Avant de rentrer m'installer au Cameroun il y a un an, je vivais en France. Donc, c'est en France que j'ai lancé cette plateforme. Et j'étais beaucoup plus optimiste quand j'étais en France que lorsque je suis rentrée au Cameroun. Je vais un peu vous expliquer pourquoi. Comme mes autres confrères expliquaient, vous pouvez faire la promotion du continent, la promotion des États africains. Si les États africains eux-mêmes ne font pas le travail, alors le travail de visiter l'Afrique est freiné ou est en guillemets sans intérêt. Parce qu'au final, un touriste va aller sur Instagram. Il va tomber sur Instagram, il va découvrir des destinations comme dans le bar, comme Mombasa au Kenya, ou encore, je ne sais pas, Abidjan ou Assini en Côte d'Ivoire. Ils vont aller sur Internet de visiter l'Afrique, ils vont trouver des expériences, ils vont trouver des histoires, ce qu'on appelle en anglais travel stories. Mais lorsqu'ils vont devoir choisir de prendre un billet d'avion ou de sauter à l'acte d'achat, ils vont aller sur Google. Ils vont taper peut-être Nigeria. Et quand ils vont taper Nigeria, ils vont certainement voir de l'Afrique ou de Hollywood, mais ils vont voir Boko Haram et ce genre de choses. C'est là, par exemple, où il y a un premier point. Donc, c'est important, c'est ça, que les États africains accompagnent des initiatives privées comme c'est l'Afrique, en mettant en place tout ce qui est justement aussi tout à faire, tout ce qui est au tourisme, qui facilite justement l'accès à l'information. Parce que même si on donne l'information, les gens vont toujours un peu se rassurer en regardant le site d'un État. Et aujourd'hui, peu d'États africains ont des intérêts justement de mettre accès aux informations pour les touristes. Et les pays qui en ont, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, sont les pays les plus visités sur le continent avec l'Égypte.
C'est tout à fait ça, ce sont les pays les plus visités. On vous sent passionné, c'est votre corps de métier, vous êtes consacré à ce site Visiter l'Afrique. Et j'ai envie de vous donner la parole maintenant à Abdelslam Benzitouni de Jumia Voyage. On parlait tout à l'heure avec des prémices du marketing pour l'Afrique et pour le tourisme. On voit une autre forme de marketing avec Anne-Audrey Ngako et beaucoup de sites qui pilulent, qui montrent une autre image à travers des photos, à travers des réseaux sociaux, des Instagram. Quelle est selon vous la bonne communication et la bonne stratégie marketing pour promouvoir les destinations en Afrique? Je ne vous entends pas bien.
Allez. Est-ce que vous m'entendez?
Parfaitement.
En fait, ce qui est en train de révolutionner aujourd'hui, pas que le continent africain, mais le monde entier, c'est Internet. Et Internet est un outil formidable parce que ça permet de donner une visibilité facilement.
J'ai pas le Facebook sous les yeux. Allez-y.
Ça permet de donner une visibilité facilement à des pays. Donc il y a des pays qui sont un peu précurseurs et qui sont assez innovateurs. On le voit sur le tourisme dans plusieurs pays internationaux. En Afrique, il y a certains pays qui ont réussi à utiliser Internet à leur avantage. Il y a des pays qui sont forts, comme le Maroc, par exemple, ou l'île Maurice, dans l'océan Indien. Et les réseaux sociaux, ça permet aux gens d'avoir accès à l'information. Ils voient des photos, je ne sais pas, des chutes de Victoria, et ils voient des photos d'Assini ou de je ne sais pas, de Gonvier au Bénin, et ça leur donne envie. Ils disent, ah oui, on a ça sur notre continent, ou des beaux hôtels, ou par exemple, je ne sais pas, des paysages, tout simplement. Donc les gens, il y a une certaine... Il y a un côté inspirationnel qui est fait, ils sont inspirés par les destinations. Déjà, il y a un accès, et ensuite, il n'y a pas que cette image négative.
Alors, vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook, dont je vous en parlais tout à l'heure. On va pouvoir partager les différents avis. N'hésitez pas également à participer sur notre page qui est VOA Afrique. Il y a notamment l'avis de Archiduc Théodore à N'Djamena, au Tchad. Il dit « Le tourisme est un très bon secteur de développement, mais il s'instable faiblement en Afrique. » Nous avons également un autre avis qui se trouve donc au Nigeria avec Gambiana Silla. « Le tourisme est un secteur d'avenir pouvant créer de l'emploi. Pour le développer, il faut plus de sécurité et d'investissement dans les infrastructures telles que les routes, les hôpitaux, les hôtels et les parcs naturels. » Nous avons également l'avis de Guy Ratico au Burkina Faso. La visite des touristes est importante, mais le tourisme a été mis à genoux à cause du terrorisme. Il faut d'abord lutter contre ce fléau. Alors j'ai envie de vous faire réagir, vous, Oumar, qui est avec nous au téléphone depuis le Sénégal. La Casamance a été victime de cette liste rouge à cause de troubles. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment important de pouvoir contrecarrer de façon à faire évoluer le tourisme?
Ah oui, c'est indispensable. Le tourisme a un petit droit d'entrée dans le pays. La première question qui se pose est est-ce que c'est un pays juif? Donc, alors, à l'époque, quand vous regardiez la caravane sur Internet, c'était que la violence, il y avait une crise, il y avait une rébellion terrible. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement a réussi au moins à les apporter à bord. Et c'est de mesure qu'il est fait. Maintenant, aujourd'hui, le salaire, il faut vraiment beaucoup de promotion. Il faut être très agressif. Montrer que cette caravane qui était une arme de tension, ne l'est plus. Et faire un focus sur son potentiel en territoire. La caravane, c'est une culture violente, c'est une culture riche, et c'est de la verdure. Il y a une culture de toutes sortes de fruits. C'est de la nature en état plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après cette crise, le principal défi qui est à l'actualité aujourd'hui, c'est la promotion touristique. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de le faire en collaboration avec la chaîne de télé nationale. C'est avant la prochaine émission de la nuit, elle passe des vidéos de reportage sur le site touristique qui aujourd'hui a un gros potentiel. L'idée, c'est de promouvoir, c'est de montrer le vrai visage, le nouveau visage du tourisme sénégalais.
Alors, je vais donner la parole de nouveau à Anne-Audrey Ngako. Vous avez quitté la France pour vous installer donc au Cameroun, pour vous consacrer au site Visiter l'Afrique. Est-ce que pour vous, il y a une façon de promouvoir et de partager notre culture à travers le tourisme?
Oui, bien sûr. Je pense que durant des années, la seule image que des personnes non africaines ou même africaines pouvaient avoir de certaines destinations, c'était soit les héros en Namibie, soit les Maasai au Kenya. Et ça donnait un peu anecdotique. Ça donnait un côté un peu exotique à ce qu'était l'homme africain, l'homme noir. Ou aussi, dans certains pays comme mon pays, le Cameroun, on a ce qu'on appelle chez nous le culte des crânes. Et les personnes pensaient que c'était entre guillemets de la sorcellerie. Parce que justement, on n'avait jamais communiqué sur cette culture qui est juste un hommage à nos ancêtres. Donc Internet aujourd'hui permet justement de démystifier certaines choses qu'est le continent. Et surtout de dire aux gens que... il y a la vie, il y a la joie, et que surtout, et de ne pas toujours se fier aux médias. On parlait tout à l'heure de terrorisme, mais je pense qu'en France ou plus récemment en Espagne, malheureusement, ces pays ont subi ce que certains pays africains ou dans le monde vivent actuellement. Mais ils continuent de vivre, en fait. Et on voit cette vie. On voit cette vie qu'en France, les gens marchent après un Charlie Hebdo. On voit aussi cette vie, en fait, à Abidjan quand il y a des attaques de grands bataille.
Étant donné qu'il nous reste très peu de temps, Diane, je me permets de vous couper pour donner, on va dire, le dernier petit mot, le dernier micro à Giovanni, que j'ai un peu laissé de côté. Giovanni Valencici, est-ce que pour vous, le tourisme rapporte vraiment aux populations? On parle de sommes comme 1 500 $ pour un voyage pour visiter les gorilles. Est-ce que ça rapporte vraiment aux populations sur place?
Ça peut rapporter aux populations sur place, comme on l'a vu, surtout à travers la création d'emplois, mais ce qui est sûr, c'est que il faut avoir un cadre politique bien structuré pour renforcer les liens entre le tourisme et les autres secteurs de l'économie et mieux retenir ce qui apporte les dépenses du tourisme. Et ça, c'est très important. Et à mon avis, le deuxième point...
Alors, c'est très important de souligner. Je suis triste de vous couper en pleine explication. On va bientôt rendre l'antenne. Vous pouvez continuer de voir ce débat, le revoir sur notre site. Ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique, ainsi qu'à B1 TV, qui diffuse Washington Forum à Kinshasa, en RDC.
Internet.
Gemina d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.